Radio Kapi.
Au sommaire de ce journal, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale a officiellement lancé ce lundi à Lubumbashi la 59e édition de la session ordinaire de l'examen d'État et du jury national des cycles courts sur toute l'étendue de la RDC. Raïssa Malou a mis les finalistes en garde contre la fraude et a encouragé les candidats qui passent les épreuves dans les zones occupées. Deux cas confirmés d'Ebola signalés dans les sites déplacés de Kigonze à Bunia. Nous sommes en Ituri. Cette confirmation intervient après une série de décès dans ce camp qui accueille plus de 17 000 personnes. L'invité de ce journal est la coordinatrice de l'ONG Drepalif, œuvrant à Matadi dans le Congo central, dans les actions de sensibilisation et la prise en charge médicale des drépanocytaires. Sophia Bamwenela Nyota décrit la réalité quotidienne de la vie des drépanocytaires. Avant d'aller plus loin, notez que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, accompagné de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, a accueilli ce lundi à l'aéroport international de Ndjili son homologue burundais Evariste Ndayishimiye, arrivé à Kinshasa avec son épouse pour une visite d'État de 48 heures. Cette visite témoigne de la profondeur des liens historiques qui unissent les deux pays et les deux peuples, a indiqué la présidence congolaise. Selon le programme établi par le protocole d'État, les deux chefs d'État auront des entretiens en tête-à-tête à la Cité de l'Union africaine avant une séance de travail élargie aux délégations officielles et une conférence de presse conjointe. Dans l'actualité, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale a officiellement lancé ce lundi à Lubumbashi la 59e édition de la session ordinaire de l'examen d'État et du jury national du cycle court sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Plus d'un million de candidats, dont 44,5% des filles, y prennent part. Raïssa Malou souligne que le nombre de filles est croissant par rapport à l'année passée. Elle a mis en garde les finalistes contre la fraude et a encouragé les candidats qui passent les épreuves dans les zones occupées. On l'écoute dans ce propos recueilli par Paul Mounanga.
Un diplôme n'a de valeur que s'il repose sur le mérite, la transparence, l'équité et la rigueur. C'est pourquoi aucune fraude, aucune complaisance, aucune pression extérieure et aucun trafic d'influence ne peuvent être tolérés. La crédibilité de l'évaluation dépend de toute la chaîne éducative. Enseignants, inspecteurs, chefs de centre, surveillants, services techniques, administration provinciale, parents et services de sécurité. Chacun doit remplir sa mission avec discipline, impartialité et sens de l'intérêt général. Protéger l'examen d'État, c'est protéger la confiance des familles, des universités, du monde professionnel et de la nation tout entière. Chers candidates, chers candidats, aujourd'hui, l'acteur principal, c'est vous. Ces épreuves sont organisées pour reconnaître votre travail et mesurer ce que vous avez appris. Abordez-les avec calme, sérieux, concentration et confiance. Dans les zones sous occupation, ainsi que dans les milieux où une vigilance sanitaire renforcée s'impose face aux risques épidémiques, notamment Ebola. À vous, je dis que la République ne vous oublie pas. Votre présence à cette session est un acte de courage, de dignité et de résilience.
Et signalons par ailleurs que Raïssa Malou a également inauguré le Centre national de correction de l'examen d'État, antenne du Haut-Katanga. Pendant ce temps, à Kinshasa, dans plusieurs centres d'examen d'État, les finalistes disent affronter cette étape décisive de leur parcours scolaire avec détermination. Bien qu'à l'issue de cette première journée, certains problèmes ont été enregistrés, notamment le retard dans la distribution de certains items endommagés. L'organisation générale est jugée satisfaisante par les élèves interrogés. Reportage de Magloire Landou-Mayemba.
Concentration, stress et espoir ont marqué cette première journée des épreuves de l'examen d'État. Rencontrés à la sortie de leur centre d'examen, plusieurs finalistes de Kinshasa se disent satisfaits du déroulement des épreuves. Pour ces candidats, les questionnaires étaient abordables. Ils affirment avoir répondu au mieux de leurs capacités et gardent encore confiance pour la suite.
Nous avons eu à effectuer l'épreuve de culture générale. L'examen était un peu complexe, mais nous sommes en sortie. Nous saluons l'organisation de cette année avec beaucoup de diligence. l'examen s'est bien passé.
Les questions étaient un peu difficiles, mais vu qu'on a pu réviser, on nous a bien enseigné, donc on était capable de répondre.
Du côté de l'organisation, les élèves saluent les dispositions mises en place pour assurer le bon déroulement des examens. Toutefois, des petits problèmes ont été signalés. Certains candidats n'avaient pas encore reçu leurs items après que ceux-ci ont été endommagés.
Les examens se sont bien déroulés, mis à part le fait qu'il y a certains élèves qui ont abîmé leurs items, mais jusqu'à présent, on ne les a pas encore donné de nouveaux items sous prétexte qu'il n'y a pas d'items, il faut aller prendre la 8e rue, là-bas à l'inspection.
Malgré ces quelques contraintes, les finalistes espèrent que les autorités éducatives maintiendront le même niveau d'organisation jusqu'à la fin des épreuves afin de garantir des conditions optimales pour tous les candidats.
Et puis, cette session ordinaire de l'examen d'État a été officiellement lancée dans la ville de Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord-Kivu. La cérémonie s'est déroulée au complexe scolaire catholique Prince de la Paix. À cette occasion, l'inspecteur chef des poules de l'enseignement secondaire à Beni a rassuré les finalistes quant à la rapidité de la correction des épreuves, grâce notamment à l'installation d'un centre de scanning dans la province éducationnelle Nord-Kivu 2. Marc Marofimbo nous fait le point.
Pour la ville de Beni, 6275 finalistes de 3151 filles sont attendus pour cette session ordinaire de l'examen d'État. Les lauréats racontés ce matin étaient tous rassurants après plusieurs semaines de préparation. C'est le cas de Daniel Mirembe Kambale.
La préparation s'est passée dans des conditions favorables. Nous espérons qu'on va bien traiter les affaires et ça ira bien vraiment. Courage et la concentration, ça sera une bonne chose pour la passation des épreuves. Ça pourrait être mieux, comme quoi on a appliqué aussi des mesures préventives pour l'épidémie de l'Ebola.
L'inspecteur chef de poule secondaire de la ville de Beni a rassuré les finalistes de la rapidité des opérations de correction des items. Achille Tembonzanzu.
Nous sommes en train de vous informer que pour cette année, nous avons en province éducationnelle Nord-Kivu 2 eu la chance d'avoir le centre de scannage déjà opérationnel à partir de ce 22, aujourd'hui même. Le scannage de vos copies va commencer et les résultats transmis directement au serveur national. Et donc, nous espérons que vous aurez les résultats vers le dimanche. C'est une réalité, mais vous allez la vivre.
4 jours durant, ces finalistes seront évalués, entre autres, à culture générale, en sciences et en langue. Une étape décisive pour ces finalistes et pour leur avenir académique et professionnel. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Non loin de là, à Goma, toujours au Nord Kivu, après cette première journée d'épreuve, les finalistes affichent leur satisfaction. Grâce à une bonne préparation, la plupart n'ont pas eu de mauvaises surprises. Devant le centre de passation de l'Institut Metanoia, Rosalie Zawadia a eu leurs impressions. Voici son reportage.
Les sourires aux lèvres, les élèves franchissent la sortie du centre d'examen. Dehors, l'ambiance change. Les premiers groupes se forment déjà pour vérifier les réponses et commencer les corrections.
L'animal qui servait de nourriture et qui était souvent domestiqué. Moi, j'ai mis le bœuf.
Ce qui serait la réponse, c'est les cochons.
Même si son camarade lui dit qu'il s'est trompé sur cette question, Gibson Lifendi, élève du complexe scolaire du Lac, un technique social, ne perd pas son assurance.
Quand même, je me suis retrouvée. J'ai trouvé que l'examen était pas mal. C'est bien passé en tout cas. Ça s'est bien déroulé.
Parfaite, Ntamboué affiche la même confiance. Pour elle, pas question de prêter l'oreille à ces débats des couloirs ni de regretter ses choix. Ses premiers jours est derrière elle et ses yeux sont déjà rivés sur la suite.
Je rentre à la maison, je mange, je lessive mes uniformes. Je pars d'abord dormir pour diminuer avant le truc qui s'est passé ici. Et demain, je reviens en pleine forme avec d'autres forces.
Mais pour beaucoup d'autres, les discussions continuent. Il faut finalement l'intervention d'un surveillant pour disperser les groupes et rappeler tout le monde à la réalité. Il est temps de rentrer se reposer car demain, une nouvelle épreuve les attend. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
En Ituri, en bref, 2 cas confirmés d'Ebola ont été signalés dans le site déplacé de Kigonze à Bunia. Cette confirmation intervient après une série de décès enregistrés ces derniers jours dans ce camp qui accueille plus de 17 000 personnes. Selon les responsables du site, 6 autres déplacés sont décédés depuis samedi dernier, certains présentant des symptômes similaires à ceux de la maladie. Des prélèvements ont été effectués et les résultats sont attendus. Pendant ce temps, l'équipe de riposte renforce les mesures pour contenir la propagation de l'épidémie. Et toujours en Ituri, les déplacés du site de la plaine Savo dans les territoires de Djougou lancent un appel au nouveau gouverneur militaire de province. Ils demandent des mesures urgentes pour rétablir la sécurité et faciliter le retour dans leur village. Ils l'ont fait savoir samedi dernier dans une déclaration à Djougou même. Reportage signé Jean-Claude Lokidili.
À peine nommé à la tête de la province d'Ituri, le général-major Gabi Kasongo Mulumba est déjà sollicité par les déplacés du site de la plaine Savo dans le territoire du Djougou. Dans une déclaration publiée le 20 juin, ces derniers lui demandent de faire du rétablissement de la sécurité et du retour des populations déplacées une de ses priorités. Il réclame également le déménage de Boulé et de ses avirons, estimant que la présence présumée d'engins explosifs continue de menacer les civils et freine tout retour en sécurité. Les représentants du site affirment que plus de 14 700 ménages, soit plus de 76 000 personnes, vivent toujours dans des conditions précaires. Ils dénoncent notamment des arrestations arbitraires, des violences contre les civils, des destructions de biens et des restrictions de circulation qui les empêchent d'accéder à leurs champs et à leurs activités économiques. Les déplacés invitent en fait le nouveau gouverneur à se rendre personnellement sur les sites afin de constater leurs conditions de vie et de renforcer l'assistance humanitaire. Radio Okapi n'a pas pu obtenir la réaction du nouveau gouverneur militaire de l'Ituri. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Et comme annoncé par les commandants du service national et de la task force chargée de l'assainissement de la ville de Kinshasa, un premier groupe de 600 bâtisseurs de la nation est arrivé dans la capitale hier dimanche. C'est au total plus de 4000 ex-Kuluna qui sont attendus pour lancer, sous la direction du lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, le vaste chantier d'assainissement de la ville de Kinshasa. Christophe Ngandou, reportage.
Dès leur arrivée à Kinshasa, les 600 jeunes bâtisseurs affirment être conscients de leur mission.
Nous sommes dans la task force pour travailler dans l'assainissement de la ville de Kinshasa. Nous ne venons pas faire le désordre, mais plutôt remettre la propreté dans la capitale. Nous demandons aux Kinois d'éviter de jeter les immondices dans la rue et les rivières et que chacun puisse se discipliner.
De son côté, le commandant du service national s'est dit déterminé à relever les défis d'assainir la ville de Kinshasa. Le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik demande d'être jugé par les résultats.
Le problème, ce n'est pas l'effectif. Le problème, c'est l'efficacité des unités que nous avons. Nous avons des unités qui sont très efficaces, qui sont bien formées et bien préparées. Les jeunes que vous voyez ici sont bien préparés pour rétablir l'ordre dans la ville de Kinshasa. Et vous le verrez. Dans peu de jours, je crois d'ici la semaine prochaine, nous allons nous mettre à l'œuvre et vous allez nous juger à l'œuvre.
Cette mobilisation d'envergure marque le début d'un programme présenté comme un tournant dans la lutte contre l'insalubrité à Kinshasa.
Au Kasaï oriental, 6 cas confirmés de tuberculose ont été détectés à la prison centrale de Mbujimayi. Au total, 76 autres personnes présentant des signes de la maladie présentent des signes de maladie. Ces résultats proviennent du dépistage massif mené pendant 5 jours auprès de près de 600 détenus et membres du personnel pénitentiaire. Une opération conduite par la coordination provinciale de lutte contre la tuberculose. Selon son coordonnateur, Dr Marcel Kazadi, les médicaments nécessaires sont disponibles pour assurer la prise en charge des 82 personnes concernées. Il s'exprime ici au micro d'Esther Ndalafina.
Par rapport à ce dépistage massif, nous avons eu 192 personnes qui avaient des clichés pathologiques. Et ces gens devaient aussi donner leur crachat à la machine d'une experte. Parmi eux, on a trouvé seulement 6 personnes qui ont été positives pour la tuberculose. Il y a eu aussi 76 personnes avec des clichés pathologiques parmi les 192. La mesure, c'est de mettre tout ce monde sous antituberculose, sous les médicaments pour la tuberculose. Tout le monde. Nous allons le faire déjà au début de la semaine ici. Les intrants sont là pour prendre en charge tous les 82 malades. Si au moins nous avions des salles où on peut séparer ces malades de ceux qui ne sont pas encore malades, ce serait une bonne chose. En ce moment-là, on peut couper cette chaîne de transmission. Mais ils vivent ensemble chaque jour. Nous disons quand même on les soigne, mais au moins qu'on puisse guérir ceux qui sont déjà malades. On ne sait pas les séparer de ceux qui ne sont pas malades.
Actualité internationale.
En Afrique du Sud, les opérations de rapatriement volontaire se poursuivent, organisées par certains pays dont les ressortissants ont peur de représailles à l'approche du 30 juin, date à laquelle plusieurs organisations militant contre l'immigration illégale ont annoncé de nouvelles actions. Beaucoup d'immigrés cherchent donc à quitter les lieux.
L'invité.
L'invité de ce journal est la coordinatrice de l'ONG Drepalife, œuvrant à Matadi dans le Congo central. Dans les actions de sensibilisation et la prise en charge médicale des drépanocytaires, Sophia Bamwenela Nyota décrit la réalité quotidienne de la vie des drépanocytaires. Elle s'entretient avec Élise Kavira.
Madame Sophia Bamwenela Nyota, bonjour. Pouvez-vous nous dire, madame, à quel âge vous ou alors vos parents avez su que vous aviez la drépanocytose?
Bonjour Radio Capi, c'est à l'âge de 10 ans qu'on a découvert que j'étais drépanocytaire. Je suis la seule à être drépanocytaire dans ma famille, où nous sommes 8 enfants. À chaque fois que j'étais malade, il y avait des crises vaso-occlusives, des crises douloureuses. Il y avait l'anémie sévère, beaucoup de complications liées à cette pathologie. Ce n'était pas facile pour le parent de vivre avec un enfant drépanocytaire. Mais ce qui a fait ma force dans la famille, c'était l'amour, l'attention que j'avais auprès de mes parents. Je dis paix à l'âme de mon papa qui est décédé. Il était un soutien fort pour moi et ma mère, mes frères, mes sœurs. J'étais entourée de personnes qui m'aimaient, de personnes qui me donnaient espoir.
Nous connaissons un peu tout ce qu'il y a comme préjugé autour de cette maladie. Est-ce que vous en avez l'expérience personnellement?
Le préjugé dans la société, c'est notre quotidien étant drépanocytaire. La drépanocytose est connue comme une maladie taboue. Une personne même qui souffre de la drépanocytose, ce n'est pas facile de se dévoiler parce que nous sommes préjugés, nous sommes discriminés dans la société. Nous vivons dans un monde où les drépanocytaires n'ont pas droit à beaucoup de choses. Vivre avec cette maladie, ce n'est pas facile.
Je vous vois entouré de beaucoup de parents venus accompagner leurs enfants pour le contrôle mensuel. Comment faites-vous face à cette lourde charge? Bénéficiez-vous d'un accompagnement?
Jusque là, on n'a pas encore de partenaires, ni national, ni provincial. Nous évoluons avec le peu de fonds que nous avons. C'est dans les soucis d'aider aussi des personnes qui sont touchées. Je connais la douleur de cette maladie. C'est pourquoi j'étends la main pour aider ces personnes touchées par la drépanocytose.
Quelles sont les bonnes habitudes à adopter quand on souffre de la drépanocytose?
La première des choses, c'est d'abord accepter la maladie. Deuxièmement, il faut des suivis, des contrôles médicaux réguliers, c'est important. Boire beaucoup d'eau, bien manger, la nourriture riche en fer, de bien nous protéger contre le froid, beaucoup nous reposer, c'est un peu ça.
Quels sont les besoins urgents de l'ONG DrépaLife?
La prise en charge des drépanocytaires demande beaucoup. Ils ont besoin des médicaments. Un drépanocytaire prend les médicaments presque chaque jour. On a besoin des acides foliques, on a besoin des pénivés, on a besoin des hydroxyérés, ce qu'on appelle hydréa. On a besoin des vaccins, surtout ça. Il y a 4 doses de vaccins qu'un drépanocytaire doit avoir. Mais les vaccins coûtent cher, c'est à 100$. Nous ne sommes pas à mesure d'avoir tous ces moyens pour vacciner tous ces enfants-là. Nous avons vraiment beaucoup de besoins. Nous sommes aussi dans l'accompagnement des drépanocytaires. Nous les encourageons aussi chaque année à ne pas abandonner le chemin de l'école malgré leurs multiples douleurs liées à cette pathologie. Nous avons aussi des projets de créer quand même des centres d'apprentissage pour les drépanocytaires parce que plusieurs drépanocytaires ont abandonné déjà le chemin de l'école. C'est ce que j'ai toujours dit aux parents, les drépanocytaires. Ils ne doivent pas être limités parce qu'un jour, les parents ne seront pas toujours là derrière eux. Mais s'ils savent au moins faire quelque chose, ils peuvent se prendre en charge, s'acheter des médicaments, aller quand même à l'hôpital dans les très bonnes conditions parce qu'ils savent faire quelque chose. Ça demande beaucoup de soutien, des personnes qui peuvent nous accompagner à aider des personnes touchées par la drépanocytose. Nous sommes là pour les accompagner.
Vous êtes dans l'accompagnement des enfants drépanocytaires. Vous côtoyez donc chaque jour des parents en détresse. Quel message avez-vous à leur adresser en cette journée justement qui est dédiée à la lutte contre la drépanocytose?
Aux parents qui ont des enfants drépanocytaires, j'aimerais te dire, chers parents, je sais que ce n'est pas facile, papa, maman, de vivre avec un ou deux ou trois enfants drépanocytaires. Vu la conjoncture de notre pays où la drépanocytose n'est pas prise en charge par nos autorités, ce n'est pas facile. Ce qu'il faut savoir, ces enfants sont juste des victimes de votre ignorance.
Madame Sophia Bamwenela Nyota, merci.
Et c'était notre invitée, la coordinatrice de l'ONG DrépaLife, Sophia Bamwenela Nyota, s'entretenait à Matadi avec Élise Kavira. C'est la fin de ce journal qui a été préparé par Élisée Tikota, Jude Mister Bilanda et Alain Irung. Dieudonné Nyangasa sur la technique et Jean-Désiré Kanyama vous l'a présenté. Infiniment merci à vous de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales des Radio Okapi.